Il est 19h, bienvenue sur Europe.
Un restaurant est sûrement un endroit beaucoup plus sain et moins risqué qu'un bus, qu'un train, qu'un métro aux heures de pointe. Pourquoi est-ce qu'on ne les arrête pas? Le problème, c'est que nous, on est en train de mourir.
Les bars de 11 métropoles doivent fermer ce soir à 22h et les restaurateurs craignent d'être les prochains sur la liste.
22h, à quoi ça sert? Le maire de Lyon est pour le moins dubitatif, on l'entendra.
Au sommaire également, le harcèlement sexuel dans le monde de la musique aussi. Un appel à témoignage avait été lancé, 150 femmes ont osé briser le tabou.
À l'étranger, on reviendra également sur les combats meurtriers entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie.
Nouveau champ de bataille de la Turquie. Didier François nous dira qu'après la Syrie, après la Libye et la Méditerranée, Erdogan embrase le Caucase. Sans oublier bien sûr Roland Garros, c'est très chaud en ce moment pour Gaël Monfils. On espère que ça sera pas un petit tour et puis s'en va pour lui. Hein.
Bien, et puis la tendance météo avec Anissa, les températures remontent.
Et nous avons enfin, Julien, des températures de saison. Début septembre, il faisait trop chaud, après il a fait trop froid. Demain, les températures remontent, nous allons gagner 2 à 5 degrés. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Pour boire un dernier verre, il ne vous reste plus que 3 heures montre en main. Après, il sera trop tard.
Et oui, c'est la conséquence des nouvelles mesures sanitaires qui entrent en vigueur ce soir dans les 11 métropoles en alerte renforcée. C'est le cas de Paris, mais aussi de Toulouse, où l'on vous retrouve, Benjamin Peter. Pour l'instant, seuls les bars sont concernés, mais les restaurateurs toulousains redoutent l'étape d'après.
Oui, parce que pour eux, ça ne fait aucun doute que la fermeture des restaurants à 22h, c'est ce qui les attend dans les prochains jours. C'est la prochaine étape et pas question de se laisser surprendre sans rien dire. Jérôme, qui tient l'Olivade, un restaurant à Blagnac, n'a pas l'intention de fermer le rideau.
S'ils nous garantissent que parce qu'on est fermé à 22h, tous les gens qui allaient dans nos établissements vont rentrer dormir chez eux et ne vont pas propager de virus, ça peut s'entendre. Mais ce n'est absolument pas le cas. On va fermer et toute notre clientèle va aller où? Et notamment les jeunes, ils vont aller dans des trucs privés où ils le chopent encore plus. Donc moi, je suis désolé, s'ils veulent qu'on ferme, eh bien, ils pourront venir à mon adresse et pourront venir me verbaliser, je resterai ouvert.
Pour Hubert de Faltan, de l'UMIH de la Haute-Garonne, on se trompe complètement de cible en désignant les bars et les restaurants.
Un restaurant est sûrement un endroit beaucoup plus sain et moins risqué qu'un bus, qu'un train, qu'un RER, qu'un métro aux heures de pointe. Pourquoi est-ce qu'on ne les arrête pas? Il est plus facile de taper sur le privé, sur des petites entreprises comme nous. Le problème, c'est que nous, on est en train de mourir. Ne rendons pas les armes de suite et on mourra l'épée à la main s'il le faut.
Alors, ils ont prévu de déposer un référé liberté contre les arrêtés de la préfecture. Le préfet, avec qui ils ont rendez-vous demain après-midi pour demander des aides sans condition afin de compenser leurs pertes liées à ces fermetures anticipées.
Le reportage de Benjamin Peter à Toulouse.
Il n'y a pas qu'à Toulouse d'ailleurs, Isabelle, que ces mesures de restriction passent mal. À Lyon également. Où le maire écologiste Grégory Doucet ne comprend pas.
Surpris, ce changement brutal de méthode. Je reste dubitatif sur le choix qui a été fait de fermer les bars à 22h. Le risque qui est pris ici, c'est de déplacer en fait la situation de l'espace privé vers l'espace public. On aurait beaucoup plus à gagner, à responsabiliser et à faire confiance aux entrepreneurs, patrons de bars, plutôt que de leur demander de fermer leurs portes à 22h. Et finalement, ce qui va conduire tous les gens à sortir sur l'espace public, vont-ils pour autant porter le masque ou arrêter d'être les uns à proximité des autres? J'en doute. J'appelle véritablement de mes voeux, c'est une politique sanitaire qui recherche davantage l'adhésion. Il me semble que les dernières annonces, au contraire, créent plutôt de la division. Et dans ce moment de rebond, ça ne me semble pas être la bonne stratégie.
Grégory Doucet, le maire de Lyon, avec Jean-Luc Beaujon, même réaction de la part de son homologue bordelais, Pierre Urmic.
Oui, à Marseille, vous le savez, c'est encore plus strict, puisque tous les restaurateurs et tous les cafés sont fermés depuis ce matin, pour au moins 15 jours.
Nouvelle manifestation. Aujourd'hui, on est des parias, disent-ils, sachant que le tribunal administratif de Marseille doit examiner demain le recours déposé par le président de la région contre l'arrêté ordonnant ses fermetures.
À propos de Marseille, des soignants de plus en plus sollicités, des services de réanimation qui se remplissent dangereusement. 19 médecins marseillais de l'APHM tirent la sonnette d'alarme dans une tribune.
Oui, disent-ils, le risque est réel d'une saturation. Nous ne voudrions pas avoir à faire de choix parmi les malades. Le professeur Didier Raoult juge cette tribune trop alarmiste. Et puis notez encore que les patrons de boîtes de nuit, qui elles sont fermées depuis maintenant plus de 6 mois, ont mené une opération escargot ce matin sur le périphérique parisien. Les intermittents du spectacle ont eux manifesté à Lille.
19h04, on en parlait hier. Dans l'Isère, le corps sans vie retrouvé aujourd'hui dans un ruisseau est bien celui de Victorine, 18 ans, portée disparue depuis samedi.
Alors, il est encore trop tôt pour dire à quand remonte la mort et l'on ne connaît pas les causes du décès, mais tout laisse à penser qu'il ne s'agit pas d'un accident. En tout cas, une enquête est ouverte pour enlèvement, séquestration et homicide volontaire. Et un appel à témoins va être diffusé avec un numéro à disposition de tous ceux qui auraient des informations. Le 0800 200 142, 0800 200 142.
Le parquet de Paris ouvre une enquête sur Bernard Marie. Bernard Marie, c'est l'ancien patron de l'agence de mannequins Elite. Enquête pour viol sur mineur à la suite de la plainte d'une ancienne journaliste et de 3 signalements d'ex-modèles.
On se souvient qu'il y a 2 ans, naissait le mouvement MeToo et sa version française, Balance ton porc. 2 ans plus tard, la parole se libère encore. On le voit avec cette histoire dans le monde de la mode, mais également dans l'industrie musicale.
Oui, avec là aussi son lot de révélations sordides. Une femme sur 4 aurait ainsi subi une agression ou des harcèlements sexuels, Angèle Châtelier.
Et un hashtag change la donne, musique tout, qui est aussi le nom d'un collectif anonyme lancé mi-juillet qui a mis à disposition un formulaire. Les victimes racontent leurs agressions et ce qui rend les choses inédites, c'est qu'il est obligatoire de nommer son agresseur. Car l'objectif de musique tout est de trouver des victimes d'un même homme. Sur les réseaux sociaux, c'est pour ça qu'il y a des appels à témoins comme celui-ci. Si vous avez été victime d'agression sexuelle par un producteur de festival de la région centre, contactez-nous. Il y en a 6 comme ça, avec le secteur, la région et le type d'agression. Maud, par exemple, se souviens quand elle était attachée de presse stagiaire dans une grande maison de disques.
Mon maître de stage voulait que je réserve une chambre d'hôtel unique pour l'artiste et moi quand on partait en promo. Parce que l'artiste me trouvait sexy, donc ça aurait été un peu un cadeau, quoi. Que ce soit les collègues ou les boss, en fait c'est au quotidien des réflexions comme ça.
Musique Tout s'engage ensuite à fournir une aide juridique aux femmes qui souhaiteraient porter plainte. Plusieurs initiatives de ce type ont vu le jour dans l'industrie musicale, comme Change de disque ou Balance ta major, qui publie anonymement des témoignages de victimes de violences sexuelles dans les plus gros labels de France.
Merci Angèle Châtelier.
Notez que l'ex-patronne d'Arte, Véronique Kella, devrait être élue demain à la tête de l'Académie des arts et techniques du cinéma, en tandem avec le réalisateur Éric Toledano. Objectif, calmer une institution en pleine crise depuis la dernière cérémonie. L'attaque de vendredi devant les anciens locaux de Charlie Hebdo, les enquêteurs s'interrogent sur l'identité réelle de l'assaillant.
Dans le téléphone portable de celui qui se présente comme un Pakistanais de 18 ans, les policiers ont en effet trouvé la photo d'une pièce d'identité à un autre nom, celui d'un homme de 25 ans. 6 personnes sont toujours ce soir en garde à vue.
Et ce matin, au procès des attentats de janvier 2015, l'avocat de Charlie Hebdo, maître Richard Malka, a tenu à réagir à ce nouvel attentat.
Évidemment, je suis atterré, effondré par ce nouvel attentat. Je pense aux personnes qui ont été blessées, qui ont la vie sauve heureusement, mais dont la vie ne sera plus jamais la même. Tout ça parce qu'un individu abreuvé de haine, qui n'a probablement jamais vu les caricatures, qui ne connaît pas leur contexte, qui ne connaît pas leur sens, qui ne connaît pas l'histoire de tout cela, parce qu'il s'est senti offensé, été prendre une machette pour tuer tout le monde. Mais quel être humain fait ça? Qui caricature la religion? Nous ou eux? Qui blasphème contre la vie elle-même en ôtant celle des innocents? On est tous dans le même bateau. On a en face de nous un projet politico-théologique. C'est notre mode de vie qui est en jeu. Alors il est temps de réagir, il est temps de se mobiliser. La police le fait, la justice le fait, mais ça ne suffit pas. Il faut que le monde culturel se réarme intellectuellement, il faut que les intellectuels se réarment, et il faut que les politiques passent du discours aux actes.
Maître Richard Malka au micro européen de Chloé Triomphe.
L'économie avec le budget 2021, il a été présenté ce matin en Conseil des ministres. Il comprend notamment une partie du plan de relance de 100 milliards d'euros.
Le budget du quoi qu'il en coûte, parce que soutenir les entreprises, c'est soutenir l'emploi, a redit aujourd'hui le ministre de l'économie.
Le gouvernement tape sur une croissance de 8% l'an prochain. Il promet une nouvelle fois qu'il n'y aura pas de hausse d'impôts.
Europe 1. Julien Bugier.
19h08 à suivre dans votre journal. La Turquie derrière les violences entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. On en parle dans quelques secondes.
Et puis on prendra des nouvelles de Gaël Monfils à Roland-Garros. Ils sont pas terribles.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Avec la suite de votre journal, Isabelle Millet, à 19h10, et cette question, une guerre est-elle en train de démarrer aux portes de l'Europe?
Les combats meurtriers se poursuivent, en tout cas au Nagorno-Karabakh, 59 morts depuis hier, en cause un différend territorial entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. On en parle ce soir avec notre spécialiste des questions internationales.
Oui, c'est l'œil comme chaque soir de Didier François. Avec Didier, bonsoir.
Bonsoir.
La communauté internationale appelle à l'arrêt des combats. On a envie de comprendre ce qu'il se passe là-bas. Et ce que vous nous dites ce soir, c'est encore une fois, c'est la Turquie qui est derrière cette flambée de violence.
Et bien malheureusement, oui, parce que ce sont des livraisons d'armes massives de la Turquie à l'Azerbaïdjan qui ont rallumé ce conflit alors qu'il était plus ou moins gelé depuis le milieu des années 90. Alors pour vous restituer l'affaire dans son contexte, l'Azerbaïdjan, comme l'Arménie, c'était des républiques soviétiques, frontalières de l'Iran et de la Turquie, la première étant musulmane, turcophone, la seconde plutôt chrétienne, orthodoxe, toutes deux ont accédé à l'indépendance lors de l'effondrement de l'Union soviétique, le problème étant que la petite région montagneuse qui les sépare, donc ce fameux Nagorno-Karabakh, majoritairement peuplé d'Arméniens, dépendait administrativement de l'Azerbaïdjan au temps de l'URSS. Donc il a décidé de faire sécession, ce qui a déclenché une guerre qui a pris fin en 1994 sur une défaite de l'Azerbaïdjan. Et puis depuis ce temps-là, il y avait des tensions, des accrochages sur la ligne d'armistice, mais plus de véritables batailles rangées. La Russie avait même initié une ébauche de pourparlers de paix.
Et donc tout a changé au printemps dernier.
Absolument, avec cette décision du président turc Recep Erdogan de fournir à l'Azerbaïdjan du matériel militaire de toute nouvelle génération, et particulièrement des drones, ainsi que des outils de guerre électronique, un matériel livré au mois de juin qui a totalement bouleversé le rapport de force sur le terrain et qui a permis aux troupes azéries de percer le front arménien hier matin sur plusieurs points. Le problème, c'est que cette ingérence militaire turque chez ses voisins n'est en rien un acte isolé, puisque c'est une stratégie qui a été mise au point dans le nord de la Syrie, qui a déjà été utilisée en Libye, qui l'est maintenant dans le Caucase. Et c'est d'ailleurs un véritable défi lancé à la Russie qui, traditionnellement, garantit la sécurité de l'Arménie, tout comme les menaces maritimes, rappelez-vous, contre la Grèce et Chypre en Méditerranée, eh bien, sont un défi lancé à l'Europe, qui doit donc clairement rester extrêmement attentive et particulièrement ferme.
Merci Didier. L'œil de Didier François, c'est tous les soirs dans le journal de 19h.
Oui, en tout cas, Emmanuel Macron est en Lituanie ce soir. Les dirigeants attendent son soutien clair contre le régime bélarusse voisin. Le président qui a prévu de rencontrer demain l'opposante Svetlana Tikhanovskaya.
Bien, on peut le redire ça ?
Tikhanovskaya.
Bien, on part maintenant à Roland-Garros.
Europe 1, radio officielle de Roland-Garros.
Axel, mais on vous retrouve en direct. Axel, et on est très inquiet pour Gaël Monfils.
Ouais, c'est dur pour Gaël Monfils, l'un des chouchous du public parisien, même si le public est en nombre très restreint en raison de la situation sanitaire. Gaël Monfils est en train, on peut le dire, de sombrer deux manches à zéro en faveur du Kazakh Alexander Bublik. Et pourtant, la Monfle, l'un de ses surnoms, a failli égaliser, servant pour le gain de la deuxième manche à 5-3. Et finalement, il a perdu le set. Bref, 4-6, 5-7 pour Bublik. Dans le troisième set, eh bien, il y a 4 jeux à 3 pour Monfils, mais c'est Bublik qui va servir. Le public, lui, est en train de se diriger vers le court 14, tout au fond de Roland-Garros, où Corentin Moutet est toujours opposé à l'Italien Lorenzo Giustino. Match interrompu par la pluie hier soir, 2-7 partout actuellement. Et tenez-vous bien, dans le cinquième set, on est à 15 jeux à 14 en faveur de Corentin Moutet. Plus de 5h30 de jeu depuis hier entre Moutet et Giustino. Et puis on terminera juste pour vous dire que c'est très bien parti pour Rafael Nadal, qui est chez lui ici, puisqu'il mène 2-7 à 0 face au Biélorusse Yegor Gerasimov.
Oui, qu'il y ait du public ou pas de public, pour lui c'est pareil. Hein. Ça ne change pas grand-chose.
Merci Axel May.
C'était le journal d'Isabelle Millet. Merci Isabelle. La météo.